Comment dire des nouvelles ? Jean-François Cadet,
Pauline Leduc, Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Imaginez que votre personnalité se dédouble et que vous ignorez totalement ce que fait l'autre vous-même les jours où celui-ci s'empare de votre corps. C'est ce que vit Lubin à chacun de ses réveils, une vie d'ellipse. L'ellipse étant, comme vous le savez, un des ressorts fondamentaux de la bande dessinée. Rien d'étonnant donc à ce que Timothée Le Boucher, dont c'est seulement le troisième album, rende un hommage graphique et scénaristique à ces intervalles qui permettent au lecteur de BD de développer son imagination. Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher est paru chez Glénat et vous dirait des nouvelles. Bonjour Timothée Le Boucher.
Bonjour.
Le personnage principal de cette histoire s'appelle donc Lubin. C'est un jeune homme quand démarre l'album. Il a, je crois, 23 ans à peu près.
Entre 21 et 23. Entre c'est 20... jamais précisé ouais, voilà, particulièrement.
C'est pas dit clairement, forcément. Et on se dit quand même dès le début, bon, c'est un adulte, mais c'est encore un ado.
Oui, oui. Bah, en fait, je crois que la bande dessinée, en particulier, parle de ça, de ce passage de l'adolescent à l'âge adulte. Je crois que d'ailleurs, l'idée de base de l'histoire, elle m'est venue quand moi, je quittais les Beaux-Arts d'Angoulême et où je me retrouvais un peu, où l'école, c'est comme des rails sur lesquels on est guidé et après, on est complètement lâché une fois qu'on en est sorti.
Ouais.
Et je savais pas si je devais me lancer plutôt dans la bande dessinée. C'est réellement ce que j'avais envie de faire, mais c'était plutôt difficile. Un avenir pas tracé et... imprévu, ou alors plutôt me lancer dans un projet plutôt pragmatique, travailler dans des boîtes. J'étais confronté à Pôle emploi où du coup on considérait que la bande dessinée n'était pas un vrai métier. Et c'est un peu comme si à ce moment-là j'avais deux visions devant moi qui se créaient, et c'est là où est venue l'histoire. Du coup, le thème d'un personnage qui vit un jour sur deux et de la confrontation entre le monde artistique et le monde plus pragmatique. Voilà.
Oui, donc c'est-à-dire que Lubin avec l'autre, ce sont les deux faces d'un jeune dessinateur de BD comme Timothée Le Boucher.
Ou en tout cas, au stade où on quitte l'école et où on se demande ce qu'on va faire.
Oui, donc le jeune Lubin, quand démarre l'histoire, il est caissier dans un supermarché. C'est un job purement alimentaire. Hein. C'est pas vraiment ça qui l'intéresse. Et sa vraie passion, c'est sur scène en fait, qu'il l'exerce. Pourquoi est-ce que vous en avez fait ? Alors pour le coup, non pas un dessinateur de bande dessinée, mais un acrobate.
En fait, quoi qu'il arrive, je savais que pour l'histoire, j'avais envie d'un métier qui soit plutôt artistique et qui soit de manière générale mal considéré dans la société. Et au départ, il devait être musicien de métal.
Oui.
Mais finalement, j'avais commencé à dessiner les planches et c'était pas tellement pertinent à l'image. Enfin, comment représenter la musique, c'est un défi qui, à mon sens, n'avait pas d'intérêt dans cette histoire-là. Et finalement, j'ai changé pour le faire acrobate, qui me permettait de raconter plein de choses à travers ces spectacles et qui était beaucoup plus visuel.
En tout cas. Visuellement, c'est vrai, effectivement, intéressant de dessiner l'acrobate. C'est comme ça d'ailleurs que démarre l'album à travers de plusieurs planches muettes. Pourquoi un musicien de métal d'ailleurs au passage ? C'est toujours en fait des univers un petit peu en marge hein, qui vous intéressent, Timothée Le Boucher. Il pouvait pas être musicien de pop ou de R&B quoi. Ça, c'était du métal.
Bah en fait, ce que j'aimais, c'était un peu les a priori que certaines personnes ont sur des métiers qui peuvent sembler comme être des passions parce que aux yeux de la société, c'est un peu mal considéré. Et au début, métal, c'est ce qui m'est venu assez intuitivement. Et ça m'intéressait parce que en plus il y a ce look qui peut être en marge d'un personnage. Et c'est pour ça que le héros a gardé ses cheveux longs d'ailleurs quand j'ai transposé à l'acrobatie.
Oui, alors il démarre effectivement avec les cheveux longs et puis il y a un moment qui est un moment clé de l'album où on découvre il le découvre lui-même d'ailleurs en se réveillant le matin, il s'est coupé les cheveux. Enfin que l'autre plus exactement s'est coupé les cheveux et c'est le moment où vraiment le côté dramatique de l'histoire s'enclenche.
Oui, en fait au début donc il sait pas ce qui lui arrive, il se réveille un jour et tout le monde lui dit qu'il a été absent, que son patron est énervé parce que de la supérette parce que en fait il a été absent sans prévenir et tout ça, il se souvient de rien et en fait cet événement se reproduit chaque jour où il ne vit qu'un jour sur deux et un autre jour il sait que son corps bouge parce qu'il a des indices, il sait qu'il fait des choses mais il ne s'en souvient pas.
Ouais. Et la coiffure là, la coiffure, il peut plus faire semblant d'ignorer quoi. Alors vous vous êtes renseigné auprès de spécialistes de la schizophrénie parce qu'au départ c'est un petit peu à ça qu'on pense. On pense à une pathologie. D'ailleurs son entourage lui dit mais enfin Lubin tu devrais quand même aller voir le médecin, ce qui est pas tout à fait dans ses habitudes. Vous avez justement étudié cette dimension de pathologie mentale possible pour dessiner votre héros.
Ouais, alors c'est pas tout à fait une schizophrénie parce que la schizophrénie, en fait là c'est plutôt trouble de personnalité multiple. où c'est quand l'individu prend une autre personnalité. Et en fait, je me suis renseigné énormément sur. J'ai lu pas mal de livres. J'ai des amis qui sont psychologues aussi, mais en réalité, l'histoire est avant tout fantastique, avec ce phénomène d'un jour sur deux qui n'est pas plausible, ou pas réaliste en tout cas.
Mais c'est trop régulier c'est pour trop que régulier, ce soit réellement de la schizophrénie.
Le changement de personnalité est plutôt lié à des chocs de stress, des émotions, des repères visuels, ce genre de choses. Voilà. Et par contre, tout le traitement psychologique autour de l'élément fantastique est plutôt réaliste en fait.
Alors il y a quelques psychiatres et psychologues qu'on voit dans l'album, mais c'est pas vraiment cette veine-là que vous avez choisi de creuser, Timothée Leboucher. Mais les deux personnalités des deux personnages sont très très différentes, quoi, pour le coup, presque opposées point par point.
Ouais, c'est vraiment une volonté en fait. C'est du coup le premier Lubin est plutôt hédoniste, naïf. Il vit avant tout pour ses émotions. Il a tendance à idéaliser les relations amoureuses et les relations d'amitié, tandis que l'autre personnalité est beaucoup plus pragmatique. Elle met en avant avant tout une réussite sociale.
Il est intéressé par l'argent très clairement. Il se trouve d'ailleurs un boulot qui rapporte beaucoup sans lui demander de trop travailler quand même. Hein.
Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, il prend un boulot qui lui permet d'être adaptable vu qu'il ne vit qu'un jour sur deux. Et après, j'ai essayé de ne pas être trop manichéen, où en fait, il n'y a pas de personnalité qui est trop gentille et l'autre qui est méchante. Les deux personnalités ont des défauts, et je pense que c'est juste une confrontation d'idéologie qui, au début, comme dans n'importe quelle colocation, se passe plutôt bien et de manière plutôt cordiale, et qui après s'envenime avec le temps.
Et là, effectivement, où ça se complique vraiment, c'est quand l'autre, donc la seconde personnalité, va se trouver une petite amie, une russe flamboyante qui s'appelle Tamara, qui en plus est caporale dans l'armée, et ce qui devait arriver arrive, puisque l'autre passe la nuit avec Tamara, et le lendemain matin, c'est Lubin, cette fois, qui se réveille aux côtés de Tamara. Toutes deux sont en petite tenue, quand Gabrielle, qui est la copine de Lubin, qui est au courant de la double personnalité, sonne à la porte avec dans les mains un gâteau d'anniversaire, puisque c'est le jour précisément de l'anniversaire de Lubin. Nous sommes page 60 de votre album.
Merde, Gabrielle.
Gabrielle ? Je comprends pourquoi tu es si pressé.
Va te cacher, je te laisse les clés pour sortir quand je serai parti. C'est très important.
À vos ordres, chef.
Gabrielle. Désolé, l'autre avait oublié de mettre le réveil.
Je m'en doutais, alors j'ai apporté le petit déjeuner.
Gabrielle, tu veux pas qu'on parte tout de suite pour profiter du bord de mer ?
Ce que j'ai entre les mains supportera mal le voyage. Joyeux anniversaire, Lubin. Eh bah, tu es pressé. T'as eu le temps de faire un vœu au moins ?
Mais oui, c'est parce que je suis trop excité de voir la mer.
J'aurais bien pris un peu de gâteau, mais la situation est trop malsaine pour moi. Je me casse. Pardon, je rachèterai une assiette.
Gabrielle, je suis désolé. Je la connais pas, elle...
C'est l'autre qui est responsable, j'ai bien compris. Va préparer ton sac et n'oublie pas ton maillot de bain.
Oui, je me dépêche. Qu'est-ce que tu fais ?
Je peux pas, Lubin. J'ai essayé, je voulais pas gâcher ton anniversaire, mais je n'arrive pas à te pardonner. J'ai tort, Lubin. J'essaie de te dédouaner de tes actes, mais il fait partie de toi. C'est toi.
Gabrielle, qu'est-ce que tu racontes ? J'y suis pour rien, je le contrôle pas.
Je te laisse ici, Lubin.
Gabrielle, s'il te plaît. Gabrielle ?
Ouais, Gabrielle plante donc le personnage de Lubin comme ça sur la route. Et juste après cette scène, Timothée Leboucher, il y a 6 cases muettes. Hein, et il y en a pléthore d'ailleurs de cases muettes, parfois même de planches muettes dans l'album. On voit en fait Lubin pensif, perdu dans ses pensées. On l'imagine un peu triste, mais on le voit marcher dans la rue avec son téléphone portable. Et puis il rentre chez lui et c'est ensuite seulement qu'il va exploser. Des cases muette, justement. Dans un album classique, on aurait pu les remplacer par des ellipses. Vous, c'est pas du tout le choix que vous avez fait. Pourquoi ?
En fait, donc le bouquin, c'est un bouquin format roman graphique où il y a 192 pages.
Oui.
Et en fait, j'apprécie particulièrement ce type de format parce que ça nous laisse le temps de raconter exactement ce qu'on veut avec le temps qu'on veut.
Oui.
C'est un peu la raison pour laquelle je suis pas mal influencé par le manga en partie, même si je lis énormément de franco-belge. C'est parce que avec une pagination importante, on peut vraiment accélérer et décélérer le récit. Et ici, en fait, à ce moment-là, dans l'histoire, je sentais que le récit avait besoin d'une pause où Lubin, en fait, digère un peu ce qui vient de se passer et on le voit marcher jusqu'à chez lui. Puis après, il commence à enregistrer une vidéo où il engueule son autre personnalité.
Oui, parce qu'il communique par vidéo et
oui,
webcam interposée. Hein. On va y venir dans un instant. Mais justement, sur la gestion du temps par rapport à la narration que vous avez imaginée, Timothy Le Boucher, parce que là, c'est très compliqué. On est vraiment, on est dans une histoire de temps, précisément. Et ça, il fallait que ça apparaisse graphiquement dans l'album.
Ouais, en fait, même... En fait, d'une certaine manière, il y a quelque chose d'assez progressif dans la bande dessinée où au départ, dans les toutes premières pages, il y a 3 strips par page et il y a beaucoup plus... Enfin, les cases prennent plus d'importance.
Oui.
Parce qu'en fait, il y a tout un discours sur le temps et sur la manière dont ça s'accélère au cours d'une vie. Et en fait, plus l'album avance, plus il y a les cases se resserrent. Après, ça finit avec 4 strips par page et la narration devient de plus en plus elliptique parce que tout ça accompagne en fait le récit d'une certaine manière.
Oui, et les personnages vieillissent également aussi. Comment est-ce que vous avez fait graphiquement pour vieillir vos personnages? C'est la fameuse technique du morphing ou bien
En fait, c'est assez drôle parce que mon dessin est plutôt iconique ou en tout cas il y a le moins d'informations possible pour signifier les personnages et
oui.
Du coup, quand on vieillit, forcément, on est obligé de rajouter des éléments et pour que ça soit pas trop artificiel, j'ai vraiment étudié. Mais c'est quelque chose qui me fascine depuis longtemps, la manière dont les corps vieillissent. En fait, c'est vraiment des détails comme le nez qui grandit, le lobe des oreilles qui grandit, la structure osseuse qui s'affaisse légèrement et qui devient plus épaisse. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui se travaille dans le temps. Où, en plus, là, c'est très progressif parce qu'on voit vraiment le timing, le temps défiler petit à petit. Et du coup, tous les personnages vieillissent lentement. Donc, il y a vraiment des éléments... Par exemple, pour le personnage principal, il y a des ruptures qui permettent d'aider à vieillir, comme la présence d'une barbe. Mais après, après la barbe, je le rase et là, les rides commencent à apparaître. Et du coup, c'est très progressif.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Timothée Le Boucher pour son album « Ces jours qui disparaissent » aux éditions Glénat. Alors, les journées que votre personnage Lubin ne vit pas, Timothée Le Boucher, le lecteur ne les voit pas non plus. Là aussi, c'était un choix narratif très fort. Vous avez tout recentré sur le personnage de Lubin.
Oui, en fait, je crois que j'apprécie particulièrement, en tout cas pour cette histoire, c'est ce que j'avais réellement dû faire, c'est les histoires à point de vue où le personnage est au même niveau que le lecteur.
Oui. Il apprend en même temps que nous, finalement,
oui, c'est
ce
ça.
Qu'a fait son autre lui.
Et du coup, il y a tout un travail sur l'information manquante qui est présente dans tout l'album, où on apprend par petites touches ce qu'est devenu l'autre, ce qu'a fait l'autre en parallèle, mais il n'est jamais réellement montré au-delà des moments où on le voit dans les vidéos.
Alors, on apprend de plusieurs manières d'ailleurs. On l'apprend déjà dans les dialogues qu'il y a par webcam interposé et par ordinateur interposé. Et là, graphiquement, bon, ça a l'air très simple comme ça, mais il fallait y penser. Vous avez mis des phylactères, donc des bulles de couleurs différentes. Pour l'un et l'autre des personnages.
Ouais, en fait, ça c'est. En fait, comme mon parti pris premier, c'est vraiment de travailler sur la narration. Et du coup, le dessin, il est même pensé pour servir la narration. D'une certaine manière, c'était vraiment l'élément le plus simple pour qu'il y ait aucun. Pour que le lecteur ne se trompe pas, en tout cas. Et en plus, ça signifiait aussi le phylactère jaune que c'était un autre registre et donc du matériel enregistré de l'ordinateur.
Mais on ne voit jamais l'autre, graphiquement
non.
Parlant.
À part du coup sur les vidéos, mais jamais de manière frontale en tout cas.
Oui, on apprend aussi beaucoup, nous lecteurs, de petits détails que vous avez comme ça disséminés dans les décors, dans les dessins, et qui nous permettent de voir justement, en particulier dans la dernière partie de l'album, que l'histoire et le temps ont avancé en même temps. Est-ce que pour vous, Timothée Le Boucher, dessiner une bande dessinée, c'est jouer avec le lecteur, c'est instiller une part de mystère et petit à petit lever un voile?
Bah, particulièrement dans cette bande dessinée-là, en fait, comme tout le travail d'Ellipse était présent, il fallait que le lecteur puisse, si ça l'intéresse, deviner par bribes d'informations, par légères touches, ce qui était arrivé. Et même, j'ai caché des éléments de réponse au sein des décors ou de l'histoire, que je ne donne pas particulièrement, mais si le lecteur veut le deviner, en tout cas, un lecteur attentif pourra trouver ça.
Donc, faut lire et relire l'album pour, à chaque lecture, découvrir de nouveaux points.
N'oublie pas les gens, mais...
Non, bien sûr. En tout cas... Alors, on n'a pas parlé des autres personnages en détail, parce que bon, il y a Lubin et l'autre, évidemment, ce sont des personnages capitaux. Il y a les deux jeunes femmes qu'on a déjà évoquées, Tamara et Gabrielle, mais il y a aussi la famille de Lubin, famille adoptive, en l'occurrence, et les membres de son groupe, de sa troupe plus exactement, qui s'appelle Léandre, Alexandra et Pedro. Comment est-ce que vous les avez imaginés, ces personnages-là? Déjà, rien que les noms de l'ensemble du casting, vous n'avez pas pu vous laisser entre les mains du hasard le choix de ces noms-là, c'est très important.
Ah oui, alors le nom, du coup, c'est... Parce que en fait, quand je crée des personnages, souvent j'essaye d'imaginer quel type de nom, quel type d'origine ils peuvent avoir, quels sont leur historique. Et souvent, c'est parce que ma mère travaille dans une école maternelle et elle me parle souvent d'enfants qui ont des noms particuliers. Et souvent, il y en a qui me marquent. Et Lubin et Léandre font partie de ces enfants dont elle m'a parlé.
Oui, Léandre, on pense forcément au théâtre, pour le coup, peut-être plus justement qu'au cirque et au monde de l'acrobatie.
Oui, c'est en fait, après, quand on écrit une bande dessinée, comme chaque choix est décidé, on peut glisser des éléments comme ça qui ne gênent pas la narration pour quelqu'un qui veut pas s'y intéresser, en tout cas, mais qui créent des petits discours réguliers.
Oui, parce que vous auriez pu effectivement creuser davantage la question de l'adoption, la relation très particulière d'ailleurs qu'il y a entre le personnage de Lubin et sa mère adoptive, qui vieillit d'ailleurs considérablement dans le courant de l'album. Est-ce que à partir justement de ces jours qui disparaissent, il n'y a pas également d'autres histoires que vous pourriez comme ça sortir un petit peu comme des histoires satellites par rapport à l'album?
Après, c'est sûr que quand j'avais quand j'ai écrit, j'avais envoyé un dossier à des éditeurs, puis ensuite j'ai écrit 20 pages de texte qui décrivaient à peu près tous les éléments qu'il y avait dans l'histoire.
Ah oui.
Et j'avais inventé...
C'est un peu comme dans une série télé, quoi, une sorte de bible des personnages, oui, avec l'évolution de chacun d'eux.
Et j'avais inventé énormément de détails qu'au final j'ai juste retranscrit l'ossature principale, parce qu'en fait, comme l'histoire parle de ce temps qui nous échappe, de toutes ces informations qui paraissent importantes mais qui nous échappent, au fur et à mesure des pages, en fait, Lubin n'a plus le temps de prendre un intérêt pour des choses qui avant étaient importantes. Et c'est pour ça qu'il y a l'accélération du récit, où au début vraiment des choses insignifiantes peuvent paraître, et à la fin il apprend des choses en une phrase, des choses tellement importantes que en fait le temps lui glisse entre les doigts.
Oui, et graphiquement parlant, les personnages sont pas aussi des personnages qu'on peut rencontrer. Si, on peut les rencontrer tous les jours dans la rue, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer physiquement parlant ce genre de personnage dans une BD qui est quand même dans un style plutôt assez réaliste, quoi, d'une certaine façon. Par exemple, le personnage de Pedro, comment est-ce que graphiquement parlant vous l'avez imaginé?
Alors Pedro, du coup, je savais que je voulais qu'il soit, que tous ses amis soient une joyeuse bande légèrement en marge. Voilà. Donc en marge par rapport à la norme, mais pas en marge.
Non, ils sont très bien intégrés dans la vie. Hein. Ils n'ont pas de problème psychologique particulier, eux, mais physiquement et donc graphiquement parlant, ils sortent de l'ordinaire.
Oui, je voulais que du coup traiter de personnages qui peuvent être caricaturaux, mais traiter de manière pas caricaturale dans l'histoire en tout cas. Et Pedro, du coup, c'est l'homme fort, grand, qui est assez taciturne et qui parle pas tellement, ou qui parle très peu. Je crois qu'il doit avoir que 3 bulles de dialogue, et pourtant il a une importance parce qu'il est souvent là et les gens parlent de lui. Et par petites touches, il est décrit comme ça en fond de l'histoire. Et après, c'est dans le design, en fait. Il y a tout un travail de design des personnages qui me permettent qu'on puisse saisir directement, vu que en fait la bande dessinée, il y a énormément d'éléments qui sont imbriqués à l'intérieur, et du coup je voulais qu'on puisse reconnaître immédiatement chaque personnage.
Voilà, ces jours qui disparaissent de Timothée Leboucher est donc disponible aux éditions Glénat. On va marquer une courte pause pour le flash et on va parler de la relance, d'un nouveau départ, enfin on verra, d'un magazine de bande dessinée tout simplement mythique, les Cahiers de la BD. Son rédacteur en chef Vincent Bernier va nous rejoindre juste après le flash et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. dirait des nouvelles, Jean-François Cadet.
Toujours avec l'auteur de BD Timothée Leboucher pour son album intitulé « Ces jours qui disparaissent » aux éditions Glénat. Alors quelques mots sur votre parcours, Timothée Leboucher, puisque vous l'avez vous-même évoqué dans la première partie de l'émission. Comment êtes-vous devenu auteur de bande dessinée ?
Je crois que c'est venu assez progressivement. En plus, j'étais pas un grand lecteur de bande dessinée et j'en avais pas beaucoup chez moi. Et j'avais fait plutôt de la bande dessinée avant d'en lire. Et ensuite, après, je savais que
Mais comment est-ce qu'on peut avoir l'idée de faire de la bande dessinée avant d'en lire? Ça me semble complètement fou.
En fait, j'en avais trois, et je crois que je relisais en boucle ces trois-là, et je sais pas pourquoi, j'en demandais peut-être pas, ou je sais plus exactement. Et après, j'avais commencé à raconter, et juste je dessinais, et je voulais raconter des histoires, et je crois que c'est venu très intuitivement. Et ensuite, je savais que je voulais faire ça, donc j'ai tout fait pour rentrer dans une école, je suis rentré aux Beaux-Arts d'Angoulême. Là, j'ai eu un master en bande dessinée, et un DNSEP aussi.
Donc c'est le diplôme national supérieur
d'expression plastique.
D'expression plastique.
En bande dessinée aussi.
En bande dessinée aussi, d'accord. Donc vous n'êtes pas un autodidacte.
En tout cas, j'ai tout fait pour apprendre. Et même en petit, j'avais des cours de beaux-arts amateurs parce que je voulais absolument faire ça. En fait, c'est vraiment un choix depuis le début. Je crois que ça a commencé à 13 ans, je dirais.
Alors, comment raconter des histoires en bande dessinée? On va aussi en parler avec vous, Vincent Bernière. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre. Vous êtes éditeur chez Delcourt. Vous êtes aussi responsable des hors-séries de Beaux-Arts Magazine. Et vous êtes aussi désormais le rédacteur en chef des Cahiers de la BD, qui viennent donc de renaître sous forme d'un trimestriel édité à 20 000 exemplaires. Alors, les Cahiers de la BD, c'est déjà une longue histoire, hein, puisque ce magazine est né en 69 sous la forme d'un fanzine baptisé Schtroumpf. C'est bien ça?
Ouais.
Édité par Jacques Glénat, des éditions du même nom. Est-ce que c'est la continuité ou est-ce que c'est un nouveau départ pour vous?
Un peu des deux, mon général. En fait, il y a eu quatre séries des cahiers de la bande dessinée. La première série, c'était, comme vous l'avez rappelé, le fanzine renéotypé qui s'appelait Schtroumpf. Ensuite, Jacques Glénat a un peu professionnalisé le journal pour en faire ce qu'on appellerait maintenant un prozine. C'était des petites monographies consacrées chacune à un auteur de bande dessinée. Et là, il a adjoint cette marque, comme on dit maintenant, les cahiers de la bande dessinée à sa publication, qui s'est donc appelée Schtroumpf, les cahiers de la bande dessinée. Et ensuite, Thierry Gronstein, en 1984, que Timothée a eu comme professeur, a repris les cahiers de la bande dessinée. Pendant 5 ans, il a été rédacteur en chef et a fait participer de nombreux contributeurs très talentueux qui ont marqué l'histoire de la critique de bande dessinée. C'est une revue qui était considérée comme assez élitiste et intellectuelle et qui donnait du discours, des informations assez pointues sur l'équivalent, si on veut, des cahiers du cinéma. Puis il y a eu une quatrième série où là c'est Numa Sadoul, éminent metteur en scène de théâtre et d'opéra, qui est intervieweur de grandes stars de la bande dessinée de l'époque comme Hergé, Tardi, Uderzo, qui a repris pendant 1 an et demi les cahiers. Alors là c'est devenu de la BD. Et puis la formule a pas fonctionné et comme on dit, par manque de lecteurs, le journal s'est arrêté et donc a connu une période de jachère de 27 ans.
Mais alors pourquoi le relancer aujourd'hui, ce journal? Qu'est-ce qui vous fait dire que là maintenant il y a un marché qu'il n'y avait pas il y a 27 ans?
Alors rien du tout.
On
m'a souvent posé cette question.
Vous êtes bien dans le monde de la BD.
Pour tout vous dire, on m'a souvent dit, mais alors pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est assez simple, c'est parce que j'en avais envie.
C'est une bonne raison. Voilà. Mais alors, ça suffit pas pour trouver des investisseurs et des financements.
Non, ensuite, vous l'avez rappelé brièvement, mais bon, moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le milieu de la bande dessinée. J'ai exercé à peu près tous les métiers possibles et imaginables dans le domaine de la bande dessinée, depuis libraire jusqu'à auteur, en passant par représentant. J'ai quand même roulé ma bosse à la fois dans le domaine de la bande dessinée et de la presse, puisque j'ai fait aussi, à part maquettiste, à peu près tous les métiers liés à la publication de journaux. Et pour moi aussi, comme pour Timothée, c'était une passion ancienne, parce que moi, quand j'étais enfant, par contre, je faisais pas de bande dessinée. J'avais aussi un nombre très restreint de bandes dessinées que je relisais en boucle.
C'est dingue.
Et je me disais, quand j'ai entendu Timothée dire ça, je me dis, c'est quand même très très frappant. Ouais. J'en demandais pas, peut-être, mais en tout cas, personne ne s'était aperçu dans ma famille que j'aimais la bande dessinée, donc je relisais tout le temps les mêmes, et tout l'agencement mental que j'avais comme petit garçon était de me dire, alors qu'est-ce que j'ai envie de lire, qu'est-ce que j'ai pas lu depuis longtemps, qu'est-ce que etc. Et je tournais comme ça entre un Jerry Spring, un Gentleman, un Astérix, un Lucky Luke, des bandes dessinées un peu plus pointues.
Plutôt la BD franco-belge, alors.
Pif Gadget, Spirou, les journaux, etc. Mais c'était mon grand-père qui me les achetait. Et par contre, mon autre passion, c'était le football, figurez-vous. Oui. Et donc, je refaisais des journaux de foot. J'achetais des magazines à l'époque, dans les années 70, et je prenais des cahiers, des colliers, et je découpais les photographies, je refaisais des titres, je réécrivais des articles. Bon, moi, j'aime la bande dessinée, les journaux et le foot.
Alors, vous avez cité il y a un instant, Vincent Bernière, les cahiers du cinéma, et c'est vrai que vous reprenez hein, cette référence dans l'éditorial de ce numéro 1. Vous vous situez donc dans la lignée des cahiers du cinéma. C'est ambitieux, pourrait-on dire. Voilà. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous voulez faire un journal de BD intello?
Non, pas du tout. Ah. En fait, j'ai un peu digressé par rapport à votre première question, je suis vraiment désolé.
Oui.
Mais c'est vrai que les formules
se sont
emboîtées dans ce que j'ai eu envie de faire. Mais si vous voulez, économiquement, c'est très compliqué de faire vivre un journal sur la bande dessinée. Ça a toujours été.
Donc, alors, il faut élargir.
J'ai pas été totalement candide. Et c'est vrai que je pense intuitivement, encore une fois, qu'il y a peut-être un moment là où le public peut être réceptif à ce genre de choses. Que
ouais.
Je pense aussi que depuis le milieu des années 90, la bande dessinée vit, et vous en avez été témoin, un nouvel âge d'or, pour plein de raisons, des raisons de production, mais aussi des raisons de reconnaissance artistique.
Dans les galeries, par exemple.
De création aussi, parce qu'on voit, par exemple, qu'il y a de plus en plus de jeunes auteurs qui sont très, 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 très talentueux. Et donc, je pense qu'après ce nouvel âge d'or, peut-être qu'il y a un âge de raison, c'est le titre, vous l'avez peut-être sans doute noté, de mon édito, et qu'il y a donc un moment. Ensuite, pour faire vivre ce type de journal, c'est un marché de niche. Donc, si on veut s'adresser à tout le monde, ce qui me semble être la moindre des choses, il faut pouvoir définir une ligne éditoriale qui est assez commune, finalement, mais qui est susceptible d'intéresser les gens qui connaissent la bande dessinée, mais qui apprennent des nouvelles choses. Je pense que c'est le cas. Et des gens qui n'y connaissent rien. C'est-à-dire que quand vous faites une journée...
Quand on ne connaît rien au cinéma, on a du mal à lire les cahiers du cinéma.
Et ouais, hein, mais quand on ne connaît rien à la bande dessinée, j'espère qu'on n'a pas trop de mal à lire les cahiers de la bande dessinée. J'insiste toujours auprès des rédacteurs pour qu'il n'y ait pas des noms qui soient balancés comme ça, comme des références que tout le monde serait susceptible de connaître. Et donc, j'espère pouvoir m'ouvrir au plus grand nombre, parce qu'il faut faire vivre ce bousif maintenant.
Oui, avec évidemment des références à tous les genres de la bande dessinée. Hein. Le premier numéro est un patchwork d'ailleurs de tous ces genres-là.
Voilà, moi je suis pas sectaire. Je pense que c'est facile d'être un spécialiste, vous savez. On se centre sur un domaine, on fait abstraction de tous les autres, et puis alors on se parle entre gens qui ont les mêmes niveaux de connaissances, et c'est très confortable, mais c'est pas du tout comme ça que j'envisage la presse.
Explorer d'autres territoires. Alors vous, précisément, en parlant de genre de bande dessinée, Timothée Le Boucher, bon, il y a un côté très manga, hein, comme vous l'avez dit, rien que sur la couverture, hein, on voit dans votre graphisme cette influence japonaise. C'est de ça dont vous vous êtes nourri?
En particulier, après, je pense que à l'entrée à l'école des beaux-arts m'a permis de lire beaucoup plus de choses que
les trois BD de départ,
ou même vers lesquelles j'allais naturellement. Et j'ai lu énormément de genres différents, et même je m'intéresse pas que à la bande dessinée. Je lis assez partiellement de la bande dessinée. Je m'intéresse pas mal au cinéma, pas mal aux livres. Forcément, du coup, ça, quand je crée une histoire, ça crée une forme d'hybridation de tout ça. Et même quand je parle de cadrage, je parle de caméra, je parle de travelling. Enfin, c'est un peu ambigu, je pense, ma manière de travailler.
Et ça, c'est vrai que ça fait peut-être partie, effectivement, des raisons qui ont amené la bande dessinée à cet âge d'or, Vincent Bernière. C'est-à-dire que les auteurs de BD aujourd'hui trouvent leurs inspirations dans les autres arts d'une façon très, très diverse.
Carrément. Ils ont fait, eux, je pense, la synthèse entre les anciens et les modernes. Et je pense que Timothée a lu des grands anciens japonais, ça s'entend, hein, dans l'interview que vous venez de faire avec lui. Ils sont définitivement multimédia également, c'est-à-dire c'est des gens qui s'expriment souvent dans différents domaines. Moi, je pense que là maintenant, on assiste vraiment à un renouveau carrément de la création en bande dessinée à travers tous ces genres. Your mind, you know all.
Linda Zwan, Matt Bastard sur RFI, extrait de la bande originale du film Zombielennium, qui est toujours dans les salles françaises et qui est à la base une série de bandes dessinées signée Arthur Depin, VMDN, avec Timothée Le Boucher, c'est plusieurs fois que je vous appelle un peu à l'américaine, excusez-moi, Timothée Le Boucher, qui publie Ces jours qui disparaissent chez Glénat, et Vincent Bernier, rédacteur en chef de la revue trimestrielle Les Cahiers de la BD. Et la première question que vous posez dans le premier numéro est la suivante, Vincent Bernier, pourquoi la BD n'intéresse pas les intellos? Alors moi je suis un peu tombé de ma chaise, parce que c'est pas vrai, ça. Il y a plein d'intellos aujourd'hui qui s'intéressent à la bande dessinée. Ça, c'est une question que vous auriez dû poser il y a 15 ans.
Ah, mais je pose la question, j'y réponds pas.
Ah oui.
Pourquoi la BD?
Bon, voilà, en fait, comme un journaliste, quoi. Êtes aussi, d'ailleurs.
Exactement.
Bah oui.
Vous avez bien remarqué. C'est de la titraille. Donc, voilà. Mais cela étant, ça intéresse quand même faiblement le milieu intellectuel.
Ça n'a pas changé encore, ça.
Non, mais c'est bien en même temps. Moi, je trouve que la bande dessinée a toujours volé un peu sous les radars, comme ça. Donc elle permet, j'entendais Timothée dire, j'apprécie tout particulièrement de faire un album de 192 pages. Il parlait de scénario dessiné.
Oui. Il intellectualise beaucoup son travail, effectivement.
Il sait ce qu'il est en train de faire. Ouais. Il parlait d'informations manquantes. Vous avez noté ça aussi.
Voilà, ouais.
Ça m'a surpris. Mais je pense que là, les intellos, comme vous les avez cités, ils sont dans d'autres sphères et c'est tant mieux. Voilà.
Bon.
Mais cela dit, c'est une rubrique qui a été faite à l'occasion de la parution du numéro du débat sur le sacre de la bande dessinée. Et c'était intéressant de faire intervenir, je trouvais, un philosophe comme Marcel Gauchet, qui dit d'ailleurs ce qu'on vient de dire, qui dit que un des sens de la modernité de l'époque, c'est de savoir faire l'amalgame entre tout un tas de sources très très diverses pour les rassembler au sein d'une œuvre de création.
Mais vos contributeurs, ils sont aussi des intellos, Vincent Bernier. Il y a des historiens de la bande dessinée, il y a des auteurs, il y a des critiques. Bon, il y a Numa Sadoul que vous avez
cité
tout à l'heure. C'est pas une insulte, un télo. Faut assumer aussi, quand même.
Non, mais c'est vrai qu'on aime bien réfléchir et penser sur la bande dessinée.
Oui.
C'est ça, c'est
et clair. Par exemple, dans ce numéro, vous réfléchissez avec une normalienne qui s'appelle Irène Leroy-Ladurie, grande famille s'il en est, de scientifique, et qui partage sa thèse. Vous voyez, c'est une thèse, hein, avec vos lecteurs, une thèse sur le motif de la caresse dans la bande dessinée.
Oui, c'est tout à fait charmant, je trouve. Alors, elle, Irène Leroy-Ladurie, elle fait partie d'une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération d'auteurs, mais il y a aussi une nouvelle génération de critiques.
Oui.
Des gens qui sont très, très diplômés. En fait, j'appelais l'avènement d'une telle génération de mes voeux depuis longtemps, parce que moi, je commence à approcher la cinquantaine. Je suis parfaitement autodidacte, pour le coup, pour ce qui concerne le journalisme et la critique de bande dessinée. Alors que eux, non. David Amram, Maël Ranou, qui est multi-diplômé aussi, ils sont agrégés, ils ont des diplômes. Moi, je me souviens même plus les intitulés, mais ils sont très pointus. Maëlle est aussi militant écologiste, Irène est doctorante, David Amram, il a fait au moins 3 ou 4 diplômes là simultanément, il a seulement 28 ans. Donc ça, c'est une nouvelle génération qui s'intéresse à la bande dessinée. Cela étant, ce thème sur la caresse dans la bande dessinée fait partie d'un cahier esthétique où on essaie de produire à chaque numéro 2 textes plutôt pointus, sont les plus intellos, si vous voulez, du sommaire.
Bon, et ça va quand même des caresses dont bénéficie Défi d'Astérix aux caresses de la BD érotique, dont vous étiez venu d'ailleurs nous entretenir dans une autre émission, en passant par Bastien Vivès dans Une Sœur, qu'on a reçu également ici. On sent d'ailleurs peut-être, mais je sais pas, vous allez me dire, Timothée Le Boucher, si je me trompe ou pas, on sent une petite influence de Bastien Vivès chez vous, non?
Oui, c'est marrant, ça ressort énormément. Je pense que ça fait partie des influences communes qu'on a pu avoir. Et aussi, en fait, je dessine intégralement à la tablette graphique, et du coup, forcément, on peut reconnaître des éléments du coup dans le dessin.
Pas un pas de plus. On ne bouge plus. Incroyable. Tout va bien, Mortimer?
Oui, ne vous inquiétez pas. Allez, foncez.
Et
Et pour le premier numéro de ces cahiers de la BD, Vincent Bernier, c'est la marque jaune qui est à la une dans une scène assez flashy, on va dire, et très très connue, évidemment, des aventures dessinées par Edgar P. Jacobs, hein, quand la marque jaune repousse comme ça Blake et Mortimer de façon assez démoniaque. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de une là pour ce premier numéro? Parce que c'est un petit peu la tonalité globale des cahiers de la BD, nouvelle formule que vous donnez à travers cette couverture.
Bah, le nouvel âge d'or que j'évoquais à partir du milieu des années 90 pour ce qui concerne la bande dessinée contemporaine, il provient de la reprise des personnages Blake et Mortimer par les éditions Blake et Mortimer rachetées par le groupe Média Participation. Donc il y a vraiment eu tout un travail éditorial, à mon avis, passionnant à étudier. C'est ce qu'on a fait pour ce premier numéro. Ensuite, c'est quand même, on va dire, en termes de couverture et d'icônes, Blake et Mortimer, ils sont, disons, un tout petit peu en dessous de Tintin. Sans parler d'Astérix.
Ça, c'est votre avis. Hein. Oui, bon.
Non, mais en termes de vente et
commercial. Ah, de vente, oui, ça c'est incontestable.
Commercialement parlant, c'est incontestable. Et en plus, je veux dire, Jacobs, il a jamais varié de qualité. Bon, il y a des albums qui sont un peu moins bons que les autres éventuellement, mais il en a fait assez peu. Et c'est quelqu'un qui a une aura encore aujourd'hui qui est exceptionnelle.
Oui, donc vous nous parlez de Jacobs dans ce numéro, mais aussi de Pratt, de Liberatore, de François Bouc, de Goscinny, de Miyazaki, une interview d'Alain Moore aussi. Il va falloir maintenir quand même le prestige. Vous allez vraiment pouvoir tenir le rythme?
Ouais, je pense. Ouais. 4 numéros par an, c'est pas très très compliqué. Il y a plein de choses à dire sur la bande dessinée. Là, le deuxième numéro, on est en train déjà de préparer le bouclage. Donc on pose la question, les femmes sont-elles l'avenir de la bande dessinée?
Oui.
On a peut-être une couverture...
Suite à la polémique qui s'était développée à Angoulême
il y a une polémique, en fait, elle nous intéresse que peu. Nous, on a envie de remettre les choses dans leur sens historique. Peut-être de re-raconter justement une autre histoire de la bande dessinée à travers les créatrices féminines. On va parler aussi de personnages féminins. On a la réexhumation d'une interview de Claire Bretéché. On est en train de travailler là sur la couverture, mais franchement, faire quatre unes par an autour de la bande dessinée, c'est pas très compliqué. Ensuite, il y a environ 16 sujets par numéro, donc ça va très très vite.
Bon, chaque numéro des cahiers de la BD va donc se découper en plusieurs cahiers, on l'a compris. Le dernier s'appelle La Grande Aventure de la Bande Dessinée. Alors là, pour le coup, c'est pas une BD, c'est une sorte de roman de l'histoire de la bande dessinée.
Carrément.
Une sorte de chronique, comme ça, qu'on va pouvoir suivre d'un numéro à l'autre.
Mais vous avez utilisé le bon mot. Moi, quand j'ai lu les premiers textes de Christian Staebler, comme ça, complètement par hasard, sur ce livre qui doit paraître chez l'éditeur PLG, je me suis dit, c'est génial parce qu'il écrit l'histoire de la bande dessinée comme moi j'aurais toujours rêvé de la lire, comme un roman, sans être pompeux, sans être verbeux, en étant très érudit, parce qu'il n'y a pas d'erreur, tout est historiquement fiable et en même temps c'est passionnant. Donc c'est aussi l'esprit de la ligne éditoriale de ces nouveaux cahiers de la BD.
Bon, il y a aussi évidemment l'actualité, hein, il y a quelques planches des BD qui sont d'actualité pour le coup qui paraissent dans le numéro. Quelles sont vos relations avec les différents éditeurs? Parce que tous sont plus ou moins cités. Là, on a un petit peu l'impression que c'est eux qui ont comme ça apporté le financement et qu'il faut que vous lui rendez un petit peu.
Tous les éditeurs sont présents. Il y a beaucoup d'éditeurs indépendants. Hein. Il y a même des éditeurs indépendants qui sont annonceurs.
Oui.
Mais c'est vrai que la bande dessinée reste quand même un petit milieu avec 5-6 gros acteurs principaux qui sont annonceurs des cahiers de la BD, qui sont tout de suite venus spontanément sans avoir connaissance du sommaire. Et c'est vrai que c'est des gens que je respecte tous, que ce soit Jacques Glénat, Guy Delcourt, le groupe Média Participation, les petits éditeurs aussi dont je suis issu, parce que j'ai débuté ma carrière, quand je vous disais tout à l'heure que j'étais représentant pour tous les éditeurs alternatifs de France et de Navarre dans les années 90. Donc je connais bien les deux milieux. Je pense que c'est des milieux qui sont pas du tout hétérogènes, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a des gens qui travaillent pour des petits éditeurs, puis ensuite qui vont dans des grandes maisons et vice versa, c'est pas toujours le même cas. Il y a aussi de la surproduction chez les petits éditeurs. Enfin, pour moi, je considère qu'une œuvre, elle est bonne ou mauvaise sans regarder le nom de l'éditeur qui est dessus.
Mais vous n'allez pas leur manger dans la main à ces éditeurs-là? Quelle est l'indépendance éditoriale des cahiers de
BD? Il y a très peu d'actualité. Donc en fait, on a des sujets de fond et ensuite les éditeurs communiquent. Vous savez, c'est à peu près partout pareil pour tous les journaux. Hein. Si on prend les Incorruptibles, si vous voulez que je vous fasse le détail de...
Non, c'est de la presse. On va peut-être pas se fâcher avec eux tout de suite. Hein, voilà.
Non, mais c'est de la presse, il y a de la publicité, il y a des ventes, il y a des abonnés, ça coûte 12,50 €. Ouais. Je veux dire, les gens sont pas obligés de l'acheter, et s'ils veulent l'acheter et qu'ils trouvent qu'il y a de la compromission, ils l'achètent plus, peu importe, hein, je veux dire, c'est un produit industriel.
Bon, très bien, c'est extrêmement clair, Vincent Bernier. Donc il y a le passé, le présent et l'avenir aussi, puisque vous piquez quand même de découvrir et de faire découvrir à vos lecteurs les auteurs de demain. Alors comment est-ce que l'on peut justement comme ça avoir le nez? Ça veut dire que vous passez votre vie à découvrir des Timothée Le Boucher en
Bon, d'abord,
en
je suis pas tout seul. Hein.
Oui, ça, j'imagine.
Il y a toute une équipe rédactionnelle, mais Timothée Le Boucher est un auteur de demain. Qui ne fait pas partie du dossier. Donc,
il fait pas partie du numéro 1, mais il a toutes ses chances pour les suivants.
Il sera présent dans le cahier critique du numéro 2. Et Glénat aussi comme annonceur. Vous voyez que
je vous donne du comme les choses sont bien faites.
Mais c'est complètement hasard, en fait. C'est complètement hasard.
Mais alors, justement, parce que vous voulez dire très clairement, et vous le dites, hein, dans votre édito de ce numéro 1, que vous voulez défendre la BD de qualité. On va terminer là-dessus. C'est quoi pour vous, Vincent Bernière, une BD de qualité?
C'est une bande dessinée qui a été un peu pensée avant d'être réalisé.
Bon, ça correspond à ce qu'on disait avec Timothée Le Boucher.
Qui a une certaine forme graphique recevable, que ce soit dans le cas de la bande dessinée réaliste ou de la bande dessinée d'humour. Après, ça peut être un petit peu subjectif, si vous voulez, mais c'est difficile à détailler en une ou deux minutes. Hein. Mais il y a quand même des impondérables que vous aurez certainement remarqué quand vous faites votre sélection aussi. Une bonne histoire, un dessin qui se tient, disons que c'est la base. Après, il y a pléthore de productions, mais je pense qu'il y a au moins 500 bandes dessinées de qualité qui sortent par an.
Combien de temps pour faire une bande dessinée de qualité, Timothée Le Boucher, comme ces gens qui disparaissent?
Donc j'ai commencé il y a 2 ans à peu près, mais en réalité, je crois que comme j'avais accepté d'autres projets, si on met le temps bout à bout, je dirais 9 mois.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Une autre rencontre pour terminer cette émission, rencontre musicale avec Mirga Gracinte-Tila, une nouvelle figure mondiale de la musique classique. À tout juste 31 ans, cette jeune chef d'orchestre d'origine lituanienne dirige depuis quelques mois l'orchestre de la ville de Birmingham en Grande-Bretagne. Une formation prestigieuse où elle succède à de très grands noms. Elle dirige à l'image de sa personnalité enthousiaste et expressive. Marielle Vituro, notre correspondante en Lituanie, l'a rencontrée pour nous.
Mirga Gražinytė-Tila dirige avec tout son corps. Habitée par la musique, le rôle du chef d'orchestre prend avec elle tout son sens. La variété extrême de son geste souligne les moindres nuances de la partition. Sur un pied d'égalité avec les musiciens, elle tire de chaque œuvre sa quintessence. Mirga Gražinytė-Tila.
Je dois avouer que je n'ai jamais décidé consciemment de devenir chef d'orchestre. J'ai eu une enfance baignée de musique et je me souviens de moi toujours en train de chanter. À 11 ans, j'ai compris que jamais je ne pourrais exercer une profession sans lien avec la musique. J'ai donc intégré la classe de direction de chœur. Cette communication avec les gens par la musique m'a alors séduite et me porte toujours.
Un dévouement total à la musique et aux musiciens, c'est l'élément clé de la personnalité de la jeune chef. Premier violon à l'orchestre de Klaipeda, Dalia Dedinskaite a répété avec elle le Midi de Haydn et la 4e symphonie de Mahler.
Elle cherche toujours à donner le plus de couleurs possible à l'orchestre. Elle travaille tout en finesse. Ce que j'apprécie chez elle, c'est sa capacité à toujours rechercher le meilleur tout en répétant. Cela lui arrive de changer d'avis plusieurs fois. La technique est certes importante, mais au final, l'interprétation est toujours très vivante.
Très souvent, Mirga Gražinytė-Tila dirige sans baguette.
J'aime beaucoup diriger avec les mains. Tous les doigts sont libres et je peux tous les utiliser autant pour former le son que pour communiquer avec les musiciens. Mais dans certains cas, comme avec l'orchestre de Birmingham, quand les musiciens sont nombreux et les distances sont importantes, la baguette nous permet de mieux communiquer. Elle apporte une précision certaine et l'exécution des pièces s'en trouve facilitée.
Phénomène mondial, Mirga Gražinytė-Tila est en concert sur les plus grandes scènes en France bientôt, puis au Carnegie Hall. Dainius, lui, est venu spécialement de Vilnius à 300 km de là pour la voir.
Je pense qu'elle fait partie de ces personnalités où dans quelques années je pourrais dire j'ai assisté à son concert. Son expressivité ne fait qu'aider l'orchestre à jouer, son talent est d'arriver à séduire par la musique le public, mais aussi les propres musiciens de son orchestre.
Au programme de ses concerts l'année prochaine, Debussy, dont on célèbre le centenaire de la mort. La musique française a pour elle le goût de l'enfance, mais Mirga Gražinytė-Tyla a aussi à cœur son rôle de passeur. Elle aime jouer des compositeurs lituaniens contemporains. Ce sont souvent des œuvres peu connues, mais qui résonnent avec l'histoire de son pays. Les explications de Jūratė Katinaitė, journaliste spécialisée dans la musique classique, à la radio publique.
Dans les années 70, les mouvements d'avant-garde ont enfin atteint la Lituanie. Le rôle du Festival d'automne de Varsovie a été déterminant. Les compositeurs se sont réveillés et la musique lituanienne a connu une envolée incroyable. Kutavičius ou Balakauskas ont écrit leurs œuvres majeures. Les écouter était faire acte de résistance et on se rendait au concert comme à la messe.
Avant de se lancer dans la 4e symphonie de Mahler, Mirga Gražinytė-Tyla a donné quelques indices pour mieux comprendre les 4 mouvements. Près d'une heure plus tard, le concert à Klaipeda s'est terminé par une longue, très longue ovation, puis la chef, en retrait, a fait applaudir tous ses musiciens, un large sourire éclairant son visage.
Reportage de Marielle Vituro pour VMDN. Il me reste à remercier nos deux invités. Merci Timothée Leboucher. Ces jours qui disparaissent est paru, rappelons-le, chez Glénat. Merci à vous Vincent Bernière. Les cahiers de la BD en kiosque, dans les bonnes librairies, dans les mauvaises aussi d'ailleurs.
Plutôt dans les bonnes.
Plutôt dans les bonnes, voilà. Par abonnement également, pour le prix au numéro et en kiosque dans les bonnes librairies, donc de 12,50€ pour 204 pages. Demain, la chanteuse Shime sera avec nous pour son dernier album Hero chez Warner Music et pour sa nouvelle casquette, celle de présentatrice de la Nouvelle Star dès ce soir sur M6. À demain, vous m'en direz des nouvelles.